Bienvenue à Sur la ligne, le radio podcast tout tennis. Cette semaine, on parle de Félix Auger-Aliassime qui ajoute un titre à sa saison déjà exceptionnelle, un deuxième en deux semaines. L'équipe de la Coupe Davis a été annoncée, on peut rêver. Toutefois, moins plaisant pour Simona Halep qui a testé positive à une substance illégale. Et on reçoit Raphaël Leroux qui était au championnat Banque nationale de Saguenay. Nicolas Richard, bonjour. Hugues Léger, bonjour les gars. Êtes-vous prêts?
Ok oui.
C'est parti.
Salut, salut les gars. Très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Radio Podcast officiel de l'Omnium Banque Nationale. Je vous rappelle qu'on est disponible sur toutes les plateformes de balado, qu'on est également diffusé à BPM Sport, qui est rendu réseau maintenant à Montréal, Québec et Gatineau. Messieurs, très content de vous retrouver une autre semaine face. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je commence avec Hugues Léger. Tu me laisses seul aujourd'hui à l'excellent hôtel Montville. Où es-tu? Sur la planète présentement, quelque chose qui me dit que tu es aux États-Unis.
Ouais, à New York, dans le Theater District, dans un hôtel qui est pas aussi bien que le Montville. Je le nommerai pas, par contre, pour pas être méchant, mais très content d'être à New York. C'est un voyage père-fille pour célébrer le 16e anniversaire de ma grande fille.
Ah oui, OK, t'es pas là pour la business, etc. Hey, je voulais te parler de business, Hugues. Je te fais la petite plug parce que cette semaine, j'ai créé mon compte sur Spotify. C'est quoi la version francophone du nom de la compagnie?
C'est Spotify.
Ah, c'est Spotify. OK,
On a un nom international. Spotify.com qui est une plateforme de recrutement où le grand public peut référer des gens et toucher des primes s'ils réfèrent des candidats qui sont embauchés. Donc, dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre, toutes les sources pour trouver des candidats sont bonnes maintenant et le crowdsourcing est une plateforme qui est en pleine croissance. Donc, Spotify.com, si vous voulez recommander des gens.
Ça m'a pris 2 minutes de créer mon compte et honnêtement, Nico, je saute à toi parce que dans la liste d'emplois où on peut recevoir une prime si jamais on trouve un employé, il cherche quelqu'un au Thai Zone à Saint-Jérôme, Nico. J'ai pensé que je pourrais te recommander cacher 600$ et puis l'affaire est ketchup. Si jamais tu cherches un petit sideline, Thai Zone à Saint-Jérôme, mon gars.
Grande réouverture au Thai Zone Saint-Jérôme. Teriyaki, crevettes, 2 piments épicés. On est parti pour la gloire.
Comment ça va, Nico, avec ta casquette des Expos? Tu te sens nostalgique? C'est le Reverse Retro du Canadien qui t'inspire?
Oui, ça et le fait que je me suis réveillé il y a à peu près 7 minutes. Alors, j'ai pris ce qu'il y avait sous la main pour couvrir mon couvre-chef.
C'est parce qu'on enregistre plus tôt que l'habitude. C'est pour ça qu'on n'est pas en direct aujourd'hui. Dans le fond, on le fait plus souvent qu'autrement en direct. D'ailleurs, je voulais dire ça, Hugues, parce que je t'ai entendu ce matin à peu près à 6h15 à la radio pendant que je m'en allais, Nico, à la boxe. Je maintiens le rythme. Et je trouvais que Hugues avait une voix, là, mais tu sais, pas une voix du matin, là, une voix affirmée. On sentait que le monsieur était levé depuis un bout. Oui, qu'est-ce que tu as dit?
New York, the city that never sleeps.
Ah, c'est ça, hein? c'est ça. Exact, parce que Nico, moi, je suis un peu comme toi. Si vous m'entendez à la radio, toute confidence, là, à 6h15 le matin, ça se peut que le cadran a sonné pas si longtemps avant. Je dirais pas combien de temps avant, là, mais c'est sûr qu'on se prépare quand même un peu. Mais c'est sûr que j'ai peut-être... le matin, c'est à 6h15, c'est tôt, puis je trouvais que Hugues était en feu ce matin à 6h15. Les gars, parlant de en feu... Je suis content de vous avoir parce qu'il y a beaucoup d'actualités qui se sont passées cette semaine et je veux qu'on parle évidemment de Félix Auger-Aliassime. Nico, je commence avec toi.
Ouais, ça a été un tournoi tout à fait formidable, une autre semaine formidable pour Félix Auger-Aliassime. Souvenez-vous, il y a à peine une semaine, lorsqu'on regardait le classement de la race, donc pour les finales de l'ATP, on se disait et ce serait merveilleux que Félix puisse au moins faire peut-être un quart de finale, une demi-finale pour pouvoir consolider sa place parmi les 8 meilleurs. Non seulement ça, remporte le tournoi et il l'a pas fait. Ça n'a pas été gratuit comme victoire. Là. Il a battu de gros noms, dont Daniel Evans, ça n'a pas été simple. Richard Gasquet, ça n'a pas été simple non plus. Et en finale, vous le savez, l'un de mes préférés, Sébastien Corda. J'étais vraiment très heureux de voir ces deux jeunes hommes s'affronter. Bon, on l'a vu, le Félix est vraiment une coche au-dessus de Corda, mais je suis convaincu que, puis tu sais, je me répète, là, je suis fatiguant, mais Sébastien Corda a vraiment un bel avenir devant lui. Il l'a prouvé hier. Ça n'a peut-être pas toujours été simple pour lui, mais quand même, lui aussi est un joueur qui est en feu par les temps qui courent. Deux finales en deux semaines pour lui aussi, pour le jeune Américain. Pour revenir à Félix, quelle grosse semaine. Puis tu sais, je l'ai écrit sur Twitter notamment hier, il faut se rappeler que ce n'est pas parce que c'est un 250 que ça amoindrit l'accomplissement de Félix. Ce qu'il faut faire présentement pour lui, c'est engranger des points, gagner le plus de matchs possible pour justement se qualifier pour les finales de l'ATP. Et ça a été fait. Très beau titre pour Félix. Et on va se le dire, avec la foule qu'il y avait hier, ça n'avait pas l'air d'un 250. C'était vraiment un très beau tournoi à Anvers, en Belgique. Franchement, une réussite sur toute la ligne cette semaine pour Félix Auger-Aliassime.
Hugues.
Oui, moi, ce que je retiens surtout de Félix, puis tu as raison de le souligner, Nico, il joue vraiment bien en ce moment. Son service fonctionne très, très bien. Il maintient des niveaux de première balle entre 70 et 80. Vous imaginez, les gars, c'est quand même très rare. Ça, c'est la preuve de son niveau de jeu. 22 as en demi-finale contre le résurgent Richard Gasquet. Félix joue très bien, puis sa victoire contre Musetti, je la souligne, il y a une semaine à Florence, en demi-finale. Musetti a gagné le tournoi cette semaine à Naples. Donc, il a battu un joueur en forme aussi. Donc, Félix joue très bien. On le sait, c'est un joueur de séquence, Félix. Quand il aligne des matchs, on dirait qu'il joue de mieux en mieux et c'est ce qui se passe en ce moment. Espérons que ça va continuer parce qu'il y a beaucoup de tennis dans les jambes. Il continue on va parler plus tard à Bâle cette semaine, qui est un ATP 500, pour se préparer éventuellement pour le Master de Paris, le dernier Master 1000 de l'année. Mais il y avait Jean-Charles qui me demandait ce matin, hey, c'est pas réglé encore sa qualification pour les finales d'ATP. Le problème, c'est qu'il gagne des tournois de 250, c'est très bien. Et encore une fois, il ne démérite pas d'aller chercher ses titres. Mais Urkacz et Taylor Fritz ne sont pas très loin derrière. Ils sont à moins de 400 points quand même à la race. Et il ne faut pas oublier que Djokovic vient fausser les choses au niveau du top 8 parce qu'on ne voit pas Djokovic dans les 8 premiers ou 9 premiers, sauf qu'il fait le cut parce qu'il a gagné un grand chelem et il est dans le top 20. Donc, il est qualifié d'office. On en a parlé il y a une semaine. Ce qui fait que Félix est le dernier en ce moment à pouvoir se qualifier, même s'il est 7e. Donc, il faut qu'il aille chercher des points encore cette semaine et au Masters 1000 de Paris. C'est pas plié encore, mais il joue effectivement très, très bien en ce moment.
Ben, la bonne nouvelle dans son cas, c'est que un de ses principales rivales était dans ce tournoi-là, Hubert Hurkacz, pour cette fameuse race. Et c'est quelque chose qu'on suit depuis déjà quelques semaines. Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement il s'est distancé un petit peu de Hurkacz, mais Hurkacz, messieurs, je ne sais pas si vous avez vu ça, a perdu contre Dominic Thiem. Saviez-vous qu'il joue encore?
Un autre qui revient. Il a fait un très beau tournoi, Thiem. Moi, je pensais pas qu'il reviendrait. Et là, tout d'un coup, il bat un top 10 mondial en Urkacz, champion de Masters 1000, on le rappelle, champion de Montréal cette année. Donc, Thiem, c'est intéressant ce qui se passe avec lui.
Oui, il a perdu éventuellement contre Corda. Et Nico, tu parlais de Corda. Effectivement, ça n'a pas été le match le plus excitant en finale. Je pense que le match de demi-finale contre Gasquet a été beaucoup plus intéressant et le niveau était plus haut. Cela dit, je pense que Corda était visiblement pas à 100%. Là, Nico, un de tes joueurs préférés. D'ailleurs, je te lance en dessous de l'autobus, là, mais je pense que tu étais bien content d'avoir Corda en finale, hein, Nico?
Tout à fait. Ben, tu sais, c'est parce que c'est un joueur que je. Je
dirais pas qu'est-ce que tu nous as dit hors d'onde.
Non, mais.
Pas mal paraître.
Mais tout ça pour dire que c'est un joueur qu'on voit évoluer de plus en plus. C'est un joueur qui a beaucoup de potentiel. Puis oui, bon, on fait des blagues avec Corda, mais je pense vraiment qu'il a un bel avenir, ce garçon. Un autre Américain, soit dit en passant, qui a un bel avenir devant lui. Mais tu l'as dit, était peut-être pas à 100%. On a vu entre les deux manches, il a fait appel au soigneur pour un mal, j'imagine, à l'épaule ou au bras. Mais simplement revenir brièvement sur Félix, la grande différence, je trouve, présentement avec le Félix de cet été, par exemple, où il y a eu une espèce de déclic, puis pour moi, c'est le nouveau Félix, puis c'est le Félix qu'on attendait, c'est qu'auparavant, rappelez-vous, les gars, chaque fois que Félix était dans le pétrin ou en arrachait, on était un petit peu sur le bout de notre siège en se disant « Ih, ça va casser ». On dirait qu'on n'était jamais trop sûr, on dirait qu'il y avait toujours quelque chose, un grain dans l'engrenage qui faisait qu'on n'était pas certain. Mais là, lorsque je regarde Félix, je suis confiant. J'ai le dos acculé dans dans le fauteuil. Je suis extrêmement relax. Je sais que ça va bien aller pour Félix. Je ne sais pas ce qui fait que présentement, ça fait ça. Je ne sais pas si ça va demeurer, mais je suis confortable à regarder Félix Auger-Aliassime, même lorsqu'il est dans le pétrin, même lorsqu'il tire de l'arrière ou même contre Gasquet, lorsqu'on était au bris d'égalité.
Ouais.
Je savais que ça allait bien se passer.
Je peux rajouter un point, Nico, là-dessus. Ben oui. Au début de son match contre Korda, lors du tirage pour le service, là, on voit ses yeux. Là, on parle de Eye of the Tiger. Là. Est-ce qu'il est prêt? Est-ce qu'il a les crocs avant un match? Je peux dire qu'il était dans son match déjà lors du coin toss. Et ça, je pense qu'il y a une évolution au niveau de l'attitude aussi de Félix. Là, il est là pour gagner. Il a ses objectifs en tête, là, qui est sur le point d'atteindre. Tu les as mentionnés sur Twitter aussi ce week-end. Il voulait être top 10, faire les finales de l'ATP et gagner un titre. Gagner un titre, ben, c'est déjà fait. Il y en a deux, trois si on rajoute l'ATP Cup. Il devrait finir top 10 au point où ça va et il est sur le point de se qualifier, mais il est en mission, Félix. Là. Et là, avec cette attitude-là qui s'ajoute à sa qualité de jeu, à son service qui fonctionne très bien, tous les espoirs sont permis. Là, on va recommencer à parler. Il est parti pour le top 5, top 3. Il peut même être numéro 1 mondial. Donc, on sent vraiment là, que son caractère s'est forgé depuis 2 ans. C'est encore un jeune joueur à 22 ans, le deuxième plus jeune du top 10, je le rappelle, après Alcaraz. Mais là, on a un grand champion là, qui est en train de se modeler pour la suite. Et oublie pas, Nico, Félix a perdu seulement 2 sets en 2 semaines. Il n'y a eu que 2 matchs qui sont allés en 3 sets. Son premier match, son match de premier tour à Florence et son match contre Evans cette semaine en Belgique. Ça va très bien pour Félix. Je pense qu'Alex est allé régler son problème de crevaison. Donc, je continue en live. Tu l'as mentionné, une foule imposante au tournoi vraiment de Belgique, qui était connue sous le tournoi de la Communauté économique européenne avant, avec le fameux trophée de diamant, pour ceux qui s'en souviennent, qu'Ivan Lendl a gagné notamment. Mais c'est le fun que le tennis de haut niveau soit de retour en Belgique, un pays qui a produit plusieurs grands joueurs aussi, plusieurs grandes joueuses, hein, Kim Clijsters, Justine Henin, et plusieurs autres. Je pense à, comment il s'appelle, Xavier Malisse, finaliste de Wimbledon contre Nalbandian. Donc, c'est un sport qui est très populaire en Belgique et c'était le fun de voir cette foule très nombreuse. En fait, c'était sold out là, pour les finales.
Oui, puis juste pour compléter sur Félix, moi, il y a 2 choses qui me rassurent énormément. Puis j'en ai parlé un petit peu la semaine passée, c'est qu'il gagne ce tournoi à l'intérieur. Et on sait que les finales de l'ATP, à moins que je me trompe, sont à l'intérieur. Oui. Et le tournoi d'Australie aussi. L'Open d'Australie, le premier majeur de la saison, est un tournoi d'intérieur. On sait que ça change un petit peu la dynamique des coups, ça change un petit peu l'ambiance, la foule. C'est pas le même environnement, ça change la game. Et ici, Félix, parce qu'il est devenu cette semaine le joueur avec le plus de victoires sur le circuit dans les matchs intérieurs, ça me rassure. Puis je sais pas, Hugues, ce que tu en penses, mais je passais hier la réflexion avec mon père. Honnêtement, si Félix se qualifie pour les finales de l'ATP, pour moi, il entre comme favori. Il n'y a personne en ce moment qui, je pense, joue mieux que Félix Auger-Aliassime. Ben,
c'est lui qui a le meilleur rythme. Mais encore une fois, attention à Djokovic qui a eu 2 victoires à ses 2 premiers tournois. Je fais une précision sur l'Australie. C'est un tournoi avec un toit qui se ferme. Il se joue à l'extérieur, mais souvent le toit est fermé aussi. Mais je vais ajouter un point sur le tennis intérieur. C'est pas un hasard si le premier titre de Shapovalov était venu à Stockholm à l'intérieur et de Félix dans 2 tournois intérieurs, donc Rotterdam et Anvers cette semaine. N'oubliez pas qu'au Canada, on joue à l'intérieur 7 mois par année. Donc, on apprend à jouer dans ces conditions-là. Moi aussi, je préfère jouer à l'intérieur, bien que je trouve que le tennis est plus beau à l'extérieur. Mais on est tellement dans un pays où les conditions ne sont pas favorables pour jouer beaucoup durant l'année à l'extérieur. Fait que c'est pas un hasard, je trouve, que nos joueurs canadiens aient beaucoup de succès sur les tournois intérieurs.
En tout cas, messieurs, ce qui est certain, c'est que c'est une performance assez intéressante. Il a connu tout un début de saison, Félix, et là, il s'apprête à connaître toute une fin de saison. Je pense que si on a à parier, il va y être. On en parlait la semaine passée, là, pour la fin de saison, pour la race. Écoutez, il a son sort entre ses mains. Et même si les autres font de bons résultats, ça va prendre des résultats assez exceptionnels. À moins que Félix perde au premier tour à Bâle, perde au premier tour à Paris et que Urkach aille gagner Paris, ce qui n'est pas impossible, mais la pression est sur les autres joueurs. Là.
C'est le joueur qui a le momentum en ce moment, assurément. Et comme Nico le soulignait, si il se qualifie pour les finales de l'ATP, il sera sûrement le premier ou le deuxième favori, assurément.
Alors, une autre belle victoire pour Félix Auger-Aliassime. Puis c'est le fun de le voir remporter de ces tournois-là parce que on a parlé longtemps, puis beaucoup des 9 finales. Mais là, j'ai l'impression que tout ça est loin derrière lui. Ses 9 défaites en finale avec ces titres-là, je ne sais pas, messieurs.
Il a gagné 3 de ses 4 dernières finales. Donc là, il est en train de complètement inverser le rythme. Donc, on peut oublier ses 8 finales perdues. Je pense que c'est loin derrière déjà.
Intéressant. Intéressant de voir un Félix accompli. Et pour les autres résultats, messieurs, tu en as glissé un mot tout à l'heure. Hugues Musetti qui l'emporte. Je trouve que ça ajoute à la victoire, comme tu le disais tout à l'heure, de Félix la semaine passée quand il l'a détruit en demi-finale. Et là, Musetti vient de remporter un tournoi. Et il ne remporte pas ce tournoi-là contre le moindre des joueurs. Là. C'est Matteo Berrettini qui était de l'autre côté du filet. Alors, c'est pas une petite victoire, là, disons-le comme ça.
Non, tout à fait. Musetti, un des très bons jeunes joueurs du circuit de cette école italienne qui performe vraiment, vraiment très bien. Donc, effectivement, c'est pas parce qu'on gagne un 250 qu'on gagne un moindre tournoi.
Oh, Hugues, t'as été muté. Vous parliez, est-ce que vous aviez parlé de Stockholm? Avec Holger Rune qui a battu Stefano Tsitsipas. C'est une bonne finale, ça, pour un 2-50, messieurs. Et Nico, toi, tu avais parlé hors d'onde de Jessica Pegula. Étais-tu surpris de l'avoir remporté le tournoi?
Mais il faut en parler, Pegula, parce qu'on en parle tellement depuis le début de la saison. Et là, remporte, j'ai envie de dire, enfin un tournoi. Elle remporte le tournoi de Guadalajara dont on parlait la semaine dernière, qui est un gros, gros Masters 1000. Il y avait beaucoup de bonnes joueuses qui était présente au Mexique. Mais ce qui me fascine de Pegula, les gars, c'est à quel point elle a été constante depuis le début de l'année. Vous le savez, c'est une de mes favorites. Et de l'avoir remporté non seulement son premier Masters 1000, mais son premier titre de l'année, c'est tout à fait exceptionnel, je trouve, pour conclure cette saison. Elle est maintenant au 3e rang mondial. Elle a tellement bien joué. Puis tu sais, les gars, on parle souvent, oui, de la finale, oui, du fait qu'elle a remporté le tournoi, mais il y a le comment. Et pour se rendre jusqu'à battre Sakkari, elle a dû passer sur 4 anciennes championnes. Bakina au premier tour, Andreescu au deuxième tour, Sloane Stephens au troisième tour et Azarenka en demi-finale. Donc, ça n'a pas été simple pour Pegula, mais elle a finalement remporté ce tournoi-là. Et pour les gens qui ont regardé cette finale-là, vous avez compris pourquoi on pense ici au podcast qu'elle est l'une des meilleures joueuses au monde. Je ne sais pas si elle va rester là longtemps dans le top 3. On sait que ça change souvent du côté des filles. Je regardais ce matin Kontaveit qui était deuxième au US Open et qui est maintenant 17e.
C'est disparu, oui.
Exact. Donc, au tennis féminin, on ne le sait jamais. Mais dans le cas de Pegula, qui atteint, on dirait, une espèce de prime à l'âge de 28 ans, ça m'étonnerait qu'elle débarque du top 3 avant longtemps. Mais cette semaine-là à Guadalajara, je pense, aurait été extrêmement formatrice pour elle pour les mois à venir.
Oui, et elle se retrouve troisième mondiale. Hein. Donc, je souligne un petit point sur Guadalajara. Sakkari, donc, qui a été défait en finale, se qualifie donc comme huitième pour les championnats de la WTA qui seront à Fort Worth. Coco Gauff se retrouve maintenant quatrième. Donc là, on voit vraiment là, le panel de joueuses là, qui ont bien joué cette année, là, qui sont qualifiées pour les finales de la WTA. Puis je souligne quand même le parcours de Bianca Andreescu, qui a perdu contre l'éventuelle championne Pegula, 6-4-6-4, un match très serré.
Vas-y, Alex.
Je voulais qu'on en parle parce que, bon, on en parlait la semaine passée, il y avait 4 Canadiennes dans ce tournoi-là. Je pense que la performance de Bianca Andreescu dans les circonstances, elle est très acceptable parce qu'il y a toujours un point d'interrogation. Qu'elle perde contre la championne éventuelle du tournoi en 2 manches de 6-4 et 6-4, je pense pas que c'est bien gênant, comme on dit. On se parlait de Fernandez la semaine passée. On se disait, c'est pas clair si elle va passer le premier tour. Elle a offert une bonne performance contre Bencic, mais ça a été une défaite au premier tour. Mais rien de catastrophique dans ce cas-là. Mais celle dont je veux qu'on parle, messieurs, c'est Eugénie Bouchard. Parce qu'elle a quand même bien fait, Eugénie. Elle est allée là où à peu près où on la voyait. Bon, elle a passé le premier tour contre une fille qu'on connaissait plus ou moins, mais au deuxième tour, elle affrontait Ostapenko. Vous allez me dire, Ostapenko, c'est peut-être pas la joueuse qu'elle a déjà été. Vrai. Mais c'est quand même un 3-7 contre une fille qui est encore capable de rivaliser contre les meilleurs au monde. Et ça, pour moi, c'est très positif.
Oui, dont 1-6-2 là, au deuxième set. Ça a été quand même un match équilibré. Oui, il y a des signes encourageants pour Eugénie en cette fin de saison. Moi, j'ai bon espoir de la revoir en début 2023. J'espère que ça lui a donné confiance, en tout cas, ce qu'elle a fait comme performance plus récemment. Mais oui, c'est un... Et en plus, elle a fait un bon vertigineux au classement. Là. Elle a monté de 100 places grâce à sa performance. N'oublions pas que c'est un WTA 1000, donc il y avait beaucoup de points à aller chercher. Donc, cette victoire au premier tour a été payante pour elle.
Et il y a Rebecca Marino également qui a bien fait dans les circonstances également. Elle avait un premier tour prenable et au deuxième tour, elle avait Caroline Garcia dans les pattes et elle a chauffé Caroline Garcia, une des meilleures joueuses de la fin de saison.
Qualifiée pour les finales de la WTA.
Encore là, c'est une défaite au deuxième tour, mais une fois de plus, c'est très positif, Nico.
Ouais, puis bon, on le savait, là, Caroline Garcia, c'est l'une des meilleures joueuses de l'année. Là, ça, il n'y a pas de doute. Donc, de voir que Rebecca Marino peut rivaliser avec ce genre de fille, bon, Hugues l'a dit, elle sera des finales. Elle était la sixième tête de série. Donc, de la voir perdre, elle a gagné en plus la première manche, 7-6, a perdu les deux autres, 6-3 et 7-6. Mais pour moi, il n'y a plus de doute là, que Rebecca Marino a sa place dans le top 100, voire peut-être même le top 50, là, à voir comment elle pourra rivaliser au cours des prochains mois, mais c'est extrêmement encourageant pour Marino. Et Alex, si tu me permets, parlant de Canadienne, simplement souligner là, qu'on parle souvent de la race du côté masculin, de la race du côté féminin, mais il y a aussi des races en double. Et simplement souligner que Gabriela Dabrowski est deuxième présentement à la race. Elle est déjà qualifiée là, pour les finales avec sa partenaire Juliana Olmos. Mais quand même, là, de voir qu'une Canadienne est deuxième au classement, oui, c'est du double féminin, mais quand même, ça n'enlève rien à ce qu'elle fait, c'est, je trouve, extrêmement impressionnant.
Ben, tu fais bien de le souligner, mon cher Nico, parce que, ben, écoute, on veut en parler plus du double, puis on a la chance d'avoir une des meilleures joueuses de double au monde dans notre cours. Alors, un gros bravo à Gabriela Dabrowski. Messieurs, on va faire une courte pause. Au retour, on va parler de l'équipe de la Coupe Davis qui a été annoncée, puis un mot également sur Simona Halep qui a appris une mauvaise nouvelle la semaine passée.
Séjournez à l'hôtel Montville et profitez d'une place de stationnement ainsi que d'un petit déjeuner gourmand pour bien commencer la journée. Rendez-vous sur le site hotelmontville.com pour planifier votre escapade. L'hôtel Montville a conçu l'offre parfaite pour profiter d'un séjour douillet en automne. L'offre inclut un jeu de société, deux cocktails signature, un délicieux petit déjeuner, un plateau d'huîtres, fromage et charcuterie à partager au restaurant. Réservez dès maintenant sur hotelmontville.com.
Messieurs, on a appris cette semaine la composition de la Coupe Davis. Et Hugues, je pense qu'on peut rêver un peu parce qu'on a, une excellente équipe. Et Félix et Chapeau y seront. On est parti pour la gloire, on peut le dire comme ça.
Oui, on a l'équipe A. Et ce qui est le fun, c'est qu'encore une fois, dans notre position de lucky loser, comme j'aime y faire référence, là, où on est rentré un peu par la porte dans l'arrière avec la disqualification d'office de l'équipe russe, on se retrouve avec l'équipe A maintenant qui s'est formée. Donc, on sait que Félix qui s'est rajouté donc pour le dernier tour en Espagne. Et maintenant, Denis qui a été annoncé. C'est vrai qu'on aura l'équipe complète là, avec Félix, Denis, Vachek, Gabriel Diallo et Alexis Galarneau pour les finales, donc à Malaga, aussi en Espagne, là, qui seront du 23 au 27 novembre. Mais effectivement, on peut espérer de grandes choses cette année parce que nos deux joueurs, 1 et 2, Félix et Denis, jouent bien à l'intérieur, comme on le disait. Ils vont être en pleine forme. Donc, j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer pour la Coupe Davis.
Moi, ce qui me donne confiance là, dans cette annonce-là, oui, bon, il y a la Coupe Davis, le fait qu'on a une excellente équipe, mais c'est le fait que sur 5 joueurs, il y en a 3 qui proviennent du Québec. Félix Auger-Aliassime, Alexis Galarneau et Gabriel Diallo. Souvenez-vous, il y a à un certain moment, il y a une dizaine d'années, on se disait « Où sont les joueurs québécois? » On n'avait pas Spisil, on avait Raonic, on sortait de Nestor, on sortait de Dansevich. On se disait « Où s'en va le tennis québécois? » Ben, quelques années plus tard, pour la plus grande compétition internationale, il y a 3 Québécois et 3 Québécois qui n'ont pas volé leur place et qui sont extrêmement jeunes. Donc, l'avenir est beau pour le tennis québécois. Et si on peut voir des bribes de ce talent-là à la Coupe Davis, ça me surprendrait là, qu'Alexis Gabriel joue, là, tout dépendant comment ça va aller, puis c'est les décisions du coach. Mais je suis heureux de voir qu'il y a 3 jeunes Québécois qui sont de cette équipe nationale.
c'est particulièrement encourageant et c'est bon pour les dialogues, les jeunes, etc., de pouvoir côtoyer les Félix et les chapeaux. Messieurs, en tout cas, ça va être encourageant. Comme tu le dis, c'est une chance inouïe qu'on a à la Coupe Davis et j'ai hâte de voir si on pourra traduire ce billet en or-là, en peut-être un trophée au bout. On a certainement des chances de l'espérer.
Ben, les gars, on peut ajouter que tant du côté féminin que masculin pour les finales des Coupes par pays, on est en business cette année, donc en Billie Jean King Cup. On parlait des filles il y a quelques minutes, mais on a l'équipe A aussi, donc je pense qu'on est parti pour un résultat qui va nous rendre très fiers, je pense, à la fin de cette année.
Ben, en tout cas, on peut déjà dire mission accomplie dans tous les cas là, de ce qui s'est passé dans le tennis canadien cette année. Ça, c'est certain. Mais si on a appris cette semaine une nouvelle...
Étonnante.
Ouais, c'est étonnant et je veux pas qu'on lance, qu'on porte de jugement trop rapidement parce que ça... En tout cas, Simona Halep a testé positive à une substance illégale au US Open. Elle semblait elle-même très surprise. Messieurs, vous pensez quoi de cette nouvelle-là?
Ça, c'est la réaction habituelle, être surpris, là. Puis après, dire que c'était dans des quantités extrêmement faibles. C'est les réponses de relations publiques habituelles qu'on voit quand les avocats rentrent dans le dossier. Elle a testé positif à une substance qui s'appelle le roxadustat, qui favorise donc la production de globules rouges, qui a des effets connus dont on a souvent parlé au niveau de l'EPO. Donc, c'est la même chose, en fait. Donc c'est des médicaments qui sont pris là pour des gens qui souffrent qui ont des problèmes de foie. Donc on ne croit pas que Simona Halep a des problèmes de foie, mais faudra comprendre ce qui s'est passé exactement. Effectivement, testé au US Open. Par contre, beaucoup d'appuis qui sont venus rapidement pour Simona Halep, que ce soit Darren Cahill qui est son ancien coach, Novak Djokovic, Alizé Cornet, Pam Shriver, plusieurs joueurs et joueuses là ont tout de suite monté au créneau, mais quand même, il faut quand même dire qu'à 31 ans, Halep fait face à une punition là, de 4 années de suspension du circuit si jamais ça se confirme. Donc là, c'est pas confirmé, on le répète, il y a une enquête qui est en cours, elle a le droit de se défendre, évidemment, mais espérons que ça va bien se passer pour elle parce que ça pourrait marquer une fin de carrière pour Simona Halep. Et je mentionne qu'il venait tout juste de commencer une relation avec Patrick Mouratoglou avant l'US Open, durant l'US Open Series. Donc, est-ce qu'il y a un lien? On verra. Je veux pas insinuer quoi que ce soit, mais il y a eu beaucoup de changements au niveau de son entourage dans la dernière année, donc on verra bien là, ce qui va arriver avec tout ça.
Ben, sans qu'on l'insinue, c'est quand même pertinent de le mentionner, ça c'est sûr, parce que bon, qu'est-ce qui a changé dans son environnement? Elle n'a jamais testé positive, et puis là, soudainement, il y a un nouvel environnement. C'est légitime de se poser des questions. Ça ne veut pas dire que, je veux dire, tu sais, Mouratoglou a travaillé avec beaucoup de grands athlètes. On verra. Nico, avais-tu quelque chose à ajouter sur Simona Halep?
Ben, on vous l'avait dit, là, c'est assez embryonnaire, là, les informations qu'on a, ça tombe au compte-goutte, mais je me prononce assez brièvement. Là, connaissant Simona Halep, ben, pas personnellement, là, mais l'ayant vu, puis c'est une fille qu'on aime beaucoup au podcast, puis c'est une fille qui semble aussi être appréciée par les autres joueurs, par la communauté du tennis en général, j'aurais beaucoup de difficultés à croire qu'elle s'est injectée ces substances-là de manière... volontaire. Après, voyons ce que l'enquête révèle. Bon, les échantillons scientifiques ne mentent pas. Dans son corps, il y a bien des substances qui sont dopantes, mais je serais vraiment, vraiment, vraiment surpris que ça ait été pris de manière volontaire. Voyons voir, est-ce que c'est quelqu'un dans son entourage? Est-ce que ça a été pris par accident? Mais Simona Halep, c'est une grande championne. Je pense que c'est une dame qui est en amour profond avec son sport et sa discipline. C'est une fille qui s'implique énormément aussi dans sa communauté. Donc, ça pour dire que j'ai été extrêmement surpris moi aussi de cette nouvelle-là et je tomberai en bas de ma chaise de savoir que c'était fait de manière volontaire.
Ouais, ben, tu sais, il y a plein de trucs qui peuvent arriver comme ça. Ça peut être un manque de communication. Tu sais, pensez à Sharapova aussi. C'est des médicaments pour la concentration, là. Tu sais, il y a peut-être un manque de communication aussi au niveau de l'équipe ou au niveau de la nutrition. Je ne le sais pas, là. Tu sais, je me souviens du cas de Lucian Bouté ou quelque chose du genre. C'était dans sa nutrition qui avait changé quelque chose.
Non, mais c'est ce que j'allais dire, c'est que peu importe ce qui va arriver maintenant, il y aura toujours...
un doute, malheureusement.
Exactement. Parce que, tu sais, on se rappelle de Jean Pascal, de Lucien Bouté ou même de Laurence-Vincent Lapointe en canoë-kayak, qui, même s'ils ont été blanchis, là, ça reste toujours comme une épée d'Amoclès. On ne saura jamais si ça a été pris volontairement ou involontairement, peu importe ce que l'enquête révèle. Donc, c'est malheureux pour Simon Halep, comme Hugues disait, de terminer, entre guillemets, mais il reste encore beaucoup de tennis, sa carrière sur cette note.
Oui, ben, en tout cas, si elle est suspendue parce que ben, indéfiniment pour 4 ans, là, parce qu'elle fait face, je pense, à une suspension de 4 ans, ben, si jamais.
Sera terminé.
Exact. Ben, ce sera virtuellement terminé. Je veux dire, on ne sait jamais, là, mais 4 ans à cet âge-là, c'est une longue période pour manquer du tennis. Quoique Rebecca Marino l'a fait, elle est revenue à un niveau de jeu plus qu'acceptable. Là. Alors, ben, on verra. Je pense qu'on a tous été surpris de cette décision-là, de cette nouvelle-là. Enfin, je pense que c'est une joueuse qui est appréciée d'à peu près tout le monde, là, que ce soit les joueurs, les athlètes et les médias. Alors, ben, on souhaite que ce soit le mieux, mais s'il y a de la tricherie, ben, elle devra vivre avec les conséquences de son geste. Messieurs, on va faire une courte pause. Au retour, on reçoit Abraham Santerre qui a passé sa semaine au Saguenay et Raphaël Leroux, une jeune joueuse ben, qu'on va apprendre à connaître, qui était d'ailleurs à ce tournoi.
Séjournez à l'hôtel Montville et profitez d'une place de stationnement ainsi que d'un petit déjeuner gourmand pour bien commencer la journée. Rendez-vous sur le site hôtelmontville.com pour planifier votre escapade. L'hôtel Montville a conçu l'offre parfaite pour profiter d'un séjour douillet en automne. L'offre inclut un jeu de société, deux cocktails signature, un délicieux petit déjeuner, un plateau d'huîtres, fromage et charcuterie à partager au restaurant. Réservez dès maintenant sur hôtelmontville.com.
Avant la pause, je vous avais promis le retour de notre gestionnaire de médias sociaux, celui qui fait tout un travail, celui qui parle avec vous sur les médias sociaux, qui publie les résultats. Un des membres les plus importants de notre équipe, Abraham Santerre, re-bienvenue sur le podcast, mon gars, comment ça va?
Ça va bien, là. Ça fait longtemps que je ne suis pas revenu, là. Ça fait du bien.
Ben, on est content de t'avoir, nous aussi, d'autant plus que cette semaine, tu as joué les reporters pour nous puisque tu étais d'office au Saguenay pour le tournoi, les championnats Banque nationale de Saguenay puisque toi, tu étudiais à Jonquière. Alors, c'était pas bien loin. Comment ça s'est passé? Comment tu as aimé ton expérience?
Écoute, moi, c'était la première fois que j'assistais au Challenger Banque nationale de Saguenay. Ça n'était pas revenu depuis 2019. À cause de la pandémie, mais l'engouement n'a pas été perdu, ça a même grossi. Là. Les estrades souvent pleines dès le début de la semaine pour les qualifs, les premiers tours. Vraiment un bel engouement là-bas, les gens sympathiques. Puis les joueurs étaient vraiment contents d'avoir ça. Là. Un niveau, un W60, le niveau du tournoi, là, c'est rare qu'ils ont des foules de même. Et même des chasseurs de balles, par exemple, à ce niveau-là, ils sont souvent absents. Mais là, c'était là, puis ils ont vraiment aimé ça.
Ouais, ben, les tournois organisés par Tennis Canada, de façon générale, là, les joueurs sont plus que bien traités. Abraham, moi, tu me parles de l'ambiance et que les gradins étaient pleins. Est-ce que ça a été plein du début du tournoi jusqu'à la fin, finalement?
Oui, ben le dimanche, en fait, comment ça fonctionne à Saguenay, c'est un club intérieur. Donc, dès le dimanche et le lundi, il y avait juste une estrade sur deux d'un côté. Donc là, il y avait moins de place, mais c'était que ça n'empêchait pas d'avoir beaucoup de place pour les gens. C'était vraiment avec beaucoup de monde. Dès le dimanche, c'était la journée de la famille. C'était gratuit pour tout le monde. Et pour les qualifs, de nombreuses personnes sont venues voir des joueurs comme justement Raphaël Leroux qui a gagné un match cette journée-là. Elle a 16 ans, si je ne me trompe pas. Donc c'est vraiment un bon sport à son arc. C'est vraiment intéressant. Et là, dès le mardi, dans la nuit de lundi à mardi, ils ont ajouté les estrades dans la nuit, qui venait de Québec. Ils ont fait toute l'étape. Et ils ont installé ça. Et puis, dès le mardi soir, là, on a retrouvé... moi, j'ai découvert l'ambiance du central à Saguenay, les deux côtés. C'était vraiment, vraiment amusant.
Ouais, puis le niveau de jeu, honnêtement, ça devait être quand même assez bon. Tu sais, quand on regarde les joueurs qui étaient là, il y a quand même Ursula Radwanska qui était là dans ce match-là, qui est la sœur de l'autre, si vous le savez pas. Il y a Nina Wegmayer, la Belge, qui était là aussi. Alors, il y a quand même des joueurs là, quand même connus sur le circuit. Il y avait quelques Canadiennes, c'était le cas, entre autres, de Kayla Cross. On la surveillait, elle. Bon, elle s'était qualifiée. Je pense qu'elle était très contente de se qualifier. Malheureusement, elle a perdu au premier tour. As-tu eu la chance quand même de voir son match à Kayla?
Kayla Cross, malheureusement, a joué de jour. Moi, j'ai des cours au cégep, hein? Donc j'ai raté ce moment-là. Mais effectivement, elle s'est qualifiée. Désolé pour ça. Elle s'est qualifiée, elle a fait une belle performance, puis elle a perdu au premier tour contre une Australienne, oui, Tiandra Mulia, qui a gagné en double, qui était partenaire avec Ariane Artono, donc c'était pas n'importe qui. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Puis aussi, là, pour déjà débuter la semaine de bon niveau, le mardi soir, c'était le match deux Canadiennes, Stacey Funk, qui venait de faire la finale à Fredericton, qui avait gagné justement, contre Cadence Brace, qui a 17 ans. Toronto, si je ne me trompe pas, qui est vraiment qui a un bon avenir devant elle. C'était un bon match. Ça a fini 7-6, 6-3 pour Brace. Vraiment intéressant.
Oui, ben Cadence Brace qu'on a vu elle à Granby. C'était la première fois que je la rencontrais. C'était belle fun de pouvoir la rencontrer. Elle a fait un deuxième tour. Elle a perdu contre Artono. Il y avait une autre Canadienne qui était là à Granby, qui était dans ce tournoi-là. Stakusic, qui a quand même pas fait mal, elle non plus. Là. Elle a fait quelques tours.
Ouais, qui est la seule. Dès le premier tour, là, elle a battu la sixième tête de série, Emina Bektas des États-Unis, dans un match de trois manches chaudement disputé. Là. Et après ça, elle a enchaîné les victoires avec Victoria Duval, une autre américaine. Puis après ça, elle a rencontré Ariane Artono, qui d'ailleurs avait fait la finale contre Stacey Funk à Fredericton la semaine d'avant. Artono qui a connu une très belle semaine jusqu'en demi-finale. C'était vraiment une belle joueuse que j'ai découverte, néerlandaise, et très, très, très intéressante. Selon moi, je pense qu'elle a 26 ans, là, elle a un bon futur devant elle.
Ben Artono, d'abord, elle a affronté trois Canadiennes de suite parce qu'elle a frappé Caden Brace, comme on en parlait, Marina Stakusic également. Et en demi-finale, Catherine Sebov. Alors, Catherine Sebov qui est allée prendre la revanche pour toutes les autres Canadiennes.
C'est une victoire écrasante d'Artono contre Caden Brace. C'était 6-2, 6-1. Et contre Stakusic, on inverse les chiffres, 6-1, 6-2. Ben ça, Sebov l'a eu sur le moral, selon moi, là, et est allé gagner ça 6-4, 3-6, 6-3 dans un match serré encore. Là.
Et là, Catherine Sebov, ben, tu en parlais, elle a fait la finale. Ça aurait été intéressant qu'on puisse avoir une Canadienne championne de ce tournoi-là. Malheureusement, c'est l'Indienne Carmen Cortandi qui l'a emporté. As-tu eu la chance d'assister à la finale?
Oui, j'étais à la finale hier, là, puis pour venir sur Sebov, là, elle est championne en 2018, d'ailleurs, à Saguenay. Donc, c'était pas nouveau pour elle de faire un beau parcours ici. Elle a battu dès le deuxième tour, là, la première tête de série du tournoi. C'était Moyuka Uchihima, la japonaise. Donc, ça partait sur une bonne lancée. Après ça, elle a battu la cinquième tête de série. Puis là, elle a battu la troisième tête de série en Artono. Donc, c'était vraiment là, un bon fait à son arc. Puis la finale, oui, j'ai assisté contre Carmen Cortandi, qui est une bonne joueuse aussi. Là, un match en trois manches, très corsé. Il n'y a pas de robot pour les décisions de ligne. Ça a fait des petites tensions, surtout en fin de deuxième manche.
Ah ouais, hein, ça l'a fait jaser. Il y a eu des décisions controversées.
Ouais. C'était, je pense que c'était 4-3 ou 5-4 ou 4-4 dans ce coin-là. Une balle de jeu pour Sebov, justement. Et la balle de l'autre joueuse a été callée in, mais elle a pensé que c'était out. La foule, ça se parlait, ça chuchotait. C'était vraiment chaud.
C'est quand même une performance intéressante pour Catherine Sebov. Catherine Sebov, c'était un bel espoir du tennis canadien il n'y a pas si longtemps. Sa progression, elle a été un petit peu ralentie. Je pense qu'elle ne travaille pas avec un entraîneur régulier. Alors, je pense que dans les circonstances... Pardon?
Catherine Sebov était avec sa mère toute la semaine.
Oui, exact. Ben, c'est ça. Là. Aux dernières nouvelles, c'était ça toujours. Je sais qu'elle a déjà travaillé avec Simon Larose pendant un bout. Mais quand même, une performance intéressante. Comment tu as trouvé ton expérience, mon cher Abraham? As-tu trouvé ça cool de pouvoir couvrir seul, par toi-même, ton premier... tu étais avec nous à l'Omnium Banque Nationale. Es-tu venu faire un tour à Granby aussi? Non, tu étais déjà à Jonquière. Oui,
tu es venu à la finale à Granby.
OK, tu es venu à la finale. C'est vrai. Alors, comment tu as trouvé ça là, de voler de tes propres ailes pour le podcast sur la ligne, le radio podcast sur la ligne au Saguenay?
Oui, c'était vraiment le fun d'être vos yeux et vos oreilles tout au long du tournoi. Je vous ai lancé quelques scoops comme les chasseurs de balles et des lunettes, on va se dire.
Tu étais sur la nouvelle.
C'est ça, exactement. C'était vraiment le fun. J'ai même fait un TikTok, un Reel qu'on a mis sur nos réseaux sociaux. On a atteint des bons chiffres. On a fait découvrir le tournoi pour beaucoup de personnes. Là-bas, le Challenger ont aimé notre travail. Ils ont vraiment aimé ça. On a fait vraiment avancer leurs chiffres là-dessus. Donc, je pense qu'on a fait un bon travail. Puis de mon côté, là, j'ai vraiment aimé ça, vous rapporter tout ce qui s'est passé là. Et j'ai fait aussi des nombreuses rencontres très intéressantes. C'était vraiment...
Ouais, ben, c'est des tournois intéressants pour être près des joueurs, près de l'organisation aussi. Tu sais, c'est pas des tournois aussi gros que l'Omnium Banque Nationale. Alors, ben, bravo pour ton travail cette semaine de nous avoir permis de jeter un œil un peu plus concret sur ce tournoi-là, Abraham, parce que bon, le Saguenay, c'est peut-être pas accessible pour tout le monde. C'est quand même à 4h, 4h30 de Montréal, là. Alors, ben, merci infiniment pour ton travail. Merci de ton passage au podcast, mon gars. Puis, hey, lâche pas ton bon travail, autant sur les médias sociaux qu'à l'école. Puis d'ailleurs, je te laisse retourner à tes études, mon gars, pendant que moi, ben, je m'en vais voir Raphaël Leroux, qui était justement, elle aussi, au Saguenay il n'y a pas si longtemps. Ben, Raphaël, notre mandat au podcast, au Radio Podcast sur la ligne, c'est, ben, évidemment, on parle de tennis à chaque semaine, mais c'est aussi de faire découvrir les athlètes de chez nous. Et t'en es une. Alors, ben, merci beaucoup de venir faire ton tour au podcast sur la ligne et nous jaser un peu.
Ah, c'est sûr, ça me fait vraiment plaisir.
Écoute, Raphaël, commençons par le Saguenay, puisque ben, c'est plus frais là, dans la mémoire de tout le monde. Comment ça s'est passé pour toi, ce challenger-là? Tu n'as que 16 ans lors des tournois pro. Tu ne dois pas en jouer une tonne. Comment ça s'est passé d'être dans un tournoi pro?
Ah, c'était vraiment une super belle expérience. C'était mon premier tournoi pro, d'ailleurs. Puis j'ai beaucoup aimé voir les nouvelles joueuses. Puis j'ai adoré.
Donc là, tu as déjà une victoire professionnelle derrière la cravate, puisque tu as fait, ben, tu es passé au deuxième tour. Comment c'est d'avoir déjà une victoire sur le circuit professionnel à 16 ans comme ça?
Genre, it feels unreal. C'est vraiment, c'est vraiment comme ça que je le vois, là. C'est unreal. Puis juste d'avoir 16 ans, fait que genre, honnêtement, c'est incroyable. Puis je ne vraiment pas ça.
Ben, t'en parles avec un beau sourire, puis honnêtement, ben, c'est le fun de voir déjà toute cette passion-là dans ton attitude. Écoute, notre collègue Abraham Santerre, qui étudiait à Jonquière, lui, il était là pour nous, surveillait le tournoi pour nous. Il nous a dit qu'il y avait beaucoup d'ambiance, beaucoup de personnes dans les gradins. Est-ce que tu confirmes la même chose? Est-ce que tu as aimé ça de jouer devant beaucoup de monde?
Oui, j'ai aimé ça, jouer devant beaucoup de monde, j'aimais ça. Ça m'a vraiment, genre, ça a boosté mon énergie, puis... j'avais vraiment une belle énergie sur le terrain, puis c'était vraiment à cause de la crowd. Ouais.
Ah, écoute, il y avait quelques joueuses qui ont déjà une certaine expérience sur le circuit de la WTA. Il y avait une Canadienne commence à avoir un peu d'expérience, Catherine Sebov aussi. Il y a des beaux espoirs comme Kayla Cross, qui est un des plus beaux espoirs du tennis mondial. Là. As-tu eu la chance de pouvoir apprendre de joueuses comme ça? As-tu pu profiter de l'expérience puis d'être là-bas puis de regarder des joueuses un peu plus expérimentées que toi?
Oui, j'ai pris la chance. J'étais allée voir des matchs à chaque fois que j'avais le temps. J'allais voir des matchs. Puis j'étais allée voir entre autres Kayla Cross, Catherine Sebov, puis Jada Boone. J'ai aimé ça.
Alors, ben, Jada, c'est intéressant parce que c'est une fille qui joue dans les collèges américains. C'est une fille, elle aussi, qui commence à avoir un peu d'expérience sur le circuit. D'ailleurs, elle a fait la finale de la NCAA il n'y a pas si longtemps. Là. Alors, c'est un parcours intéressant parce que ça, je pense que toi, ça, c'est quelque chose que tu trouverais intéressant peut-être d'aller jouer du côté des collèges américains pour poursuivre ta progression. Tu n'as que 16 ans, là, mais c'est déjà dans tes plans, là, ce que tu me disais?
Oui, c'est dans mes plans, absolument. Je trouve que ce serait une excellente expérience. Alors, oui.
Ben, écoute, si tu as la chance de pouvoir aller le faire, ce sera intéressant pour toi parce qu'il n'y a pas un joueur à qui j'ai parlé qui a passé par les collèges américains, que ce soit les Braden Schneider, les Alexis Gallarneau, nomme-les Carole Jao, là, peu importe, qui semble pas avoir aimé leur expérience. Alors, ben, écoute, je te le souhaite si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, Raphaël. Bon, maintenant, Raphaël, parle-nous un peu de toi. Ton parcours de tennis, ça ressemble à quoi? Si je ne me trompe pas, tu es championne québécoise, 16 ans et moins, championne canadienne en double également. 16 ans et moins. Ça part d'où la passion du tennis pour toi? Puis fais-nous un peu le profil de ta carrière jusqu'à date.
Oui, fait que, j'ai commencé à jouer au tennis quand j'avais environ 5 ans. Puis j'ai toujours, toujours adoré le tennis. C'est toujours un de mes sports favoris. J'en faisais une coupe quand j'étais jeune. Je jouais au soccer, je faisais du patinage artistique. J'ai fait du ballet même. J'étais pas assez flexible, mais voilà.
On a le même problème. Ça, je te le confirme.
J'ai toujours adoré le tennis, puis c'est pour ça que j'ai choisi le tennis, en fin de compte.
Et puis là, ben, à quel âge à peu près tu as commencé à voir que tu avais un certain talent puis que tu pouvais peut-être jouer à des niveaux peut-être un peu plus importants, là, ben, disons que provincial et national, là, au moins?
Ouais. Environ à l'âge de 10-11 ans, je commençais à être plus sérieuse.
Explique-nous un peu ton day-to-day, là, comment ça se passe, parce que j'imagine que tu es en sport-études, parce que, ben écoute, j'ai l'impression qu'à 16 ans, tu es encore à l'école.
Là. Oui, effectivement, j'ai 3 classes par jour, puis je suis au Collège de Montréal. Alors, ouais, c'est ça, j'ai 3 classes par jour, ça finit à 12h10. Et ensuite, je vais m'entraîner pour le reste de la journée et faire des devoirs le soir, bien sûr.
Ouais, c'est important que tu restes à jour dans tout ça. De toute façon, la plupart des athlètes qui sont en sport-études, de façon générale, sont assez disciplinés. Alors, j'ai l'impression que c'est ton cas également. Dis-moi, comme joueuse, à quoi est-ce que tu ressembles sur le terrain? Quel type de joueuse es-tu?
Je suis vraiment genre une baseliner. Genre, je reste beaucoup en fond de terrain et... Genre des strong ground strokes.
Okay. Donc, t'es pas mal à la mode parce que c'est pas mal le style de jeu traditionnel maintenant de rester sur la ligne de fond et de retourner beaucoup de balles. Alors, t'es une joueuse de ton temps, on va dire ça comme ça. Et qui sont tes joueurs modèles, peut-être joueurs ou joueuses desquels tu peux t'inspirer?
Leila Fernandez Leila Fernandez. En fait, c'est mon inspiration principale. J'adore comment elle joue. J'aimerais vraiment ça, jouer comme ça.
Elle est là, elle n'est pas beaucoup, beaucoup plus vieille que toi. Est-ce que tu as déjà joué contre elle? As-tu déjà eu la chance de la jouer chez les juniors dans un tournoi, peu importe, non?
Non, j'ai pas eu la chance de la jouer. Ça aurait été le fun, par contre.
J'imagine que oui, que ça aurait été le fun. En même temps, ça aurait dû être une adversaire un peu compliquée parce que déjà, elle est plus vieille que toi. Puis avec le talent qu'elle a, si tu l'avais affrontée avec 3-4 ans de moins, peut-être que ça aurait été un peu compliqué. Mais qui sait? OK, Leila, Annie Fernandez, c'est déjà un bon modèle. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'inspire au-delà de son jeu sur le terrain? Est-ce que dans sa personnalité aussi, il y a quelque chose que tu vois et que tu te dis, j'aimerais ça être tel type de personnalité? Également, autant sûr qu'à l'extérieur du terrain?
Oui, absolument. Elle a vraiment l'air fierce sur le terrain, puis c'est ce que j'aime beaucoup chez un joueur. C'est vraiment genre super important pour moi. Moi aussi, je suis fierce. Et j'aime ça, puis j'aime le montrer.
Puis je trouve. Donc, tu as du caractère sur le terrain.
Oui. Puis je trouve qu'il y a un hors du court. Fait que, ouais.
Et Raphaël, écoute, moi, je vais être honnête avec toi. Je te connaissais déjà un tout petit peu parce que tu as fait une capsule vidéo avec Tennis Montérégie ou Sport Montérégie, je crois, qui était très bien fait par ailleurs. Dis-moi, est-ce que c'est le genre de truc que tu aimes faire, donner des entrevues? Tu me sembles quand même assez à l'aise. Est-ce que tu en donnes souvent? Est-ce que tu aimes ça en donner?
Oui, j'aime ça. Oui, j'en donne quand même assez souvent. Puis j'aime ça. Honnêtement, ça, j'ai jamais eu vraiment de la misère avec les présentations orales puis leur dramatique comme on fait en ce moment. J'ai vraiment pas eu de la misère, alors j'aime ça d'en donner.
Et regardons un peu vers le futur. Tu me disais, ce sera les collèges américains, mais est-ce que tu envisages peut-être éventuellement de jouer quand même un tennis professionnel? Est-ce que tu aimerais faire carrière dans le tennis? Est-ce que le plan A, c'est d'être une joueuse de tennis professionnelle? En gros, c'est ça la question.
Oui, ça c'est mon plan.
Sans hésiter. C'est le plan A. OK. Et le plan B, je te souhaite le plan A, mais mettons, tu blessure, carrière terminée, qu'est-ce qui te ferait triper en dehors du tennis? Qu'est-ce que lit Raphaël Leroux en dehors du tennis?
J'aimerais beaucoup étudier en droit. Alors, ce serait mon plan B, c'est sûr.
Alors, une athlète plan A, tennis et plan B, peut-être une avocate, une notaire, chose certaine, tu vas travailler fort, ça c'est sûr. Et puis, c'est quoi ton horaire tennis dans les prochaines semaines? Est-ce qu'il y a des tournois professionnels encore à ton horaire prochainement? Est-ce que le Saguenay était le seul à ton horaire? Parle-nous de ce qui s'en vient pour toi.
Alors, pour le moment, je vais faire plus de tournois juniors. Genre 4-5 tournois d'affilée chez les juniors, mais non, malheureusement, je ne vais pas faire des tournois pro tout de suite. Mais c'est sûr que c'est dans mes plans d'en faire plus.
Yeah. Ben écoute, Raphaël. Oui, ben, c'est un peu la tendance que les joueurs juniors jouent un peu plus, particulièrement chez les femmes, là, jouent un peu plus de tournois pro pour aider à leur développement. Écoute, Raphaël, merci infiniment de t'être joint à nous, d'être venu au podcast sur la ligne. Je pense qu'on a rencontré une fille passionnée. En tout cas, tu en parles avec beaucoup d'étoiles dans les yeux, beaucoup de sourires de ton sport du tennis. Puis ben, nous, on va te faire une promesse au podcast sur la ligne. On va continuer de te suivre. Gêne-toi pas pour nous envoyer tes résultats, nous donner un peu de nouvelles. Ça va nous faire plaisir. Là. Il y a beaucoup de joueurs un peu partout dans le monde. Là. Fait que des fois, c'est pas toujours évident de suivre tout le monde en même temps. Fait que gêne-toi pas pour nous donner tes nouvelles. Puis ça nous fera plaisir de parler de ta carrière.
Merci beaucoup.
Ça me fait un grand plaisir, Raphaël. Bonne chance. Et puis, ben, écoute, lâche pas. Puis tu reviens nous voir quand tu veux.
Parfait. Merci beaucoup.
Merci encore une fois à Abraham et à Raphaël Leroux. On souhaite le meilleur pour Raphaël dans les années à venir. C'est une jeune joueuse qu'on va certainement suivre. Sur ce, messieurs, en direct de l'hôtel Montville, je vous dis au revoir. Nicolas, avant de te faire terminer l'émission, puisque c'est ton mandat important, Hugues, qu'est-ce qu'on surveille la semaine prochaine?
Ben, Bassel, donc Bâle, le tournoi fétiche de Roger Federer. Je suis sûr qu'il va venir faire un petit bonjour à la foule en passant, même s'il ne joue pas. Donc, Félix en action, Alcaraz, premier favori. Et retour de Medvedev à Vienne cette semaine. Donc, évidemment, on suit tout ça. On suit les poursuivants de Félix à la race avec Hurkacz et Taylor Fritz, évidemment. Mais semaine intéressante à venir. Et c'est plus tranquille chez les femmes cette semaine là, qui vont se faire un retour à Fort Worth pour les finales de la WTA dans deux semaines.
Si Félix peut se rendre assez loin ou faire à peu près le même nombre de points que ses plus proches poursuivants dans la course, il va virtuellement se qualifier parce que même s'il y a beaucoup, beaucoup de points à remporter, là, faire une différence de 1000 ou de 500 points dans un tournoi, c'est pas nécessairement évident. Nico, comme je le mentionnais, c'est ton rôle, l'important rôle de terminer l'émission.
Bon tennis Alex, bon tennis Hugues et bon tennis tout le monde.